docteur Benjamin Cretin de me recevoir. Vous êtes neurologue au CHU de Strasbourg. Et alors, on l'a compris, ces médicaments, ils arrivent là, ils sont pas loin. Mais pour en bénéficier, encore faudra-t-il avoir été dépisté.
N'est-ce pas ?
Et ça, c'est un vrai challenge. Racontez-nous ce qu'on sait aujourd'hui sur les meilleurs moyens de dépister cette maladie. Vous savez qu'il y a ceux qui s'inquiètent dès qu'ils se souviennent plus du nom du voisin ou du nom de... Et puis ceux qui, malgré les signes très forts que leur entourage leur renvoie, refusent absolument de consulter. C'est quoi les vrais signes d'alerte ? C'est quoi les vrais signes d'alerte ? Quand est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ? Pour soi ou pour un proche le plus souvent ? À vous de jouer.
Bien sûr, que de bonnes questions. Merci d'abord pour votre introduction, merci pour l'invitation, merci aux organisateurs. On est ravis d'être dans cette très belle salle en effet. Je vais évidemment répondre à vos questions. Vous me permettrez quand même de dérouler un tout petit peu mon topo car c'est toujours mieux que la réponse soit posée dans un cadre un peu conceptuel et pratique. On l'a dit, mais on le répète, il faut diagnostiquer précocement les patients et il faut diagnostiquer quand même un max de patients. Hein, c'est-à-dire qu'on en est à 1 million et on l'a dit, on est avec peut-être une prévalence qui n'est plus en augmentation, mais il y a encore du monde qui va être diagnostiqué, la population continue à vieillir. Et je voulais vous dire autre chose. Oui, 1 million de malades, c'est beaucoup. À comparer, on a à peu près 120 000 scléroses en plaques en France. Hein, alors qu'on en parle aussi beaucoup. Donc c'est vraiment une quantité de patients qui est considérable et probablement parfois mésestimée parce que c'est pas les patients Alzheimer ne sont pas des patients très bruyants, très actifs pour être représentés et être entendus. Pour comprendre le diagnostic précoce, il faut reprendre un tout petit peu les mécanismes de la maladie. Ils ont été abordés avant. Permettez-moi simplement de les rappeler très brièvement. Alzheimer découvre sa maladie avec Augusta, sa première patiente, et puis un patient également. Je ne me souviens plus de son prénom, je crois que c'était Robert. Bon. Et il ne peut pas faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer puisqu'il découvre cette pathologie et il va faire une présentation sur les anomalies cérébrales qu'il a rencontrées chez ces deux patients, notamment chez Augusta qui était en effet une patiente jeune. Et comme ça a été dit juste avant, il observe trois choses. Il observe que entre les neurones il y a des dépôts d'une substance qu'il appelle amyloïde et qu'on sait aujourd'hui qu'elle est en fait une substance pleine de peptides A-bêta. Il observe également à l'intérieur des neurones des agrégats qu'il appelle des agrégats neurofibrillaires et dont on sait aujourd'hui qu'ils sont composés de protéines tau. Et il observe également la convergence de ces anomalies sous la forme des plaques séniles qui sont la signature de la maladie d'Alzheimer. C'est quand ces deux anomalies se rencontrent que la maladie d'Alzheimer est certaine et pendant longtemps, ça vous a été dit, on pouvait diagnostiquer uniquement cette maladie post-mortem, ce qui faisait une belle jambe au patient, vous en conviendrez. Vous avez la vérité sur votre diagnostic, mais vous n'êtes plus là pour le savoir. Néanmoins, la découverte de ces anomalies qui conduiront inexorablement à l'atrophie et au déclin cognitif a été une découverte majeure, même s'il faut vous le dire, quand Alzheimer présente son cas singulier de pathologie du cortex, ce jour-là, tout le monde s'en fout. Il n'y a personne dans la pièce, on parle d'autre chose, et le chairman va lui dire, c'est pas la peine de faire un résumé. Donc on part très très mal sur la question d'Alzheimer, parce que ça n'intéresse pas les foules. Je ne suis pas sûr que ça ait toujours beaucoup changé dans la communauté neurologique. Mais c'est important de le savoir, ce jour-là, tout le monde s'en fout. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y en a qui ne s'en sont pas foutus, et on a pu comprendre, mais tardivement, parce que le siècle qui a suivi les découvertes d'Alzheimer a été un siècle troublé quand même. La découverte se fait en 1906-1907. Il y a des événements historiques qui vont évidemment empêcher les avancées conceptuelles. Mais en effet, à partir des années 80-90, on comprend que la distribution des anomalies qu'Alzheimer a mis en évidence, c'est-à-dire les anomalies amyloïdes, les anomalies de dégénérescence, eh bien, elles sont prises dans une hiérarchisation. Ça commence à l'extérieur des neurones avec les dépôts amyloïdes. Ça se poursuit à l'intérieur des neurones avec les dégénérescences neurofibrillaires, l'accumulation de tau, et ça se termine avec cette convergence. Et c'est cette hiérarchisation, cette temporelle des lésions qui permet d'imaginer qu'il y a une cascade d'événements, la fameuse cascade amyloïde. Alors c'est un scénario pathologique Et un scénario pathologique, c'est essentiel pour essayer d'agir, c'est ce qui vous a été présenté avant. Mais un scénario, ça peut être faux. Et c'est aussi ce qui a été nuancé juste avant. J'ironise souvent en disant qu'il y a un scénario qui est une hypothèse de travail, mais qui est probablement faux. C'est le scénario de la balle magique qui a tué John Fitzgerald Kennedy. Hein, quand vous avez la commission Warren qui conclut sur l'assassinat public de Kennedy, elle conclut qu'une seule balle a blessé 3 personnes. C'est peut-être vrai. Il y a des gens qui émettent l'idée que c'est potentiellement aussi un scénario faux. Ça reste une hypothèse de travail à partir de laquelle on démarre et on a essayé de mettre au point des médicaments. Et cette hypothèse de travail n'était quand même pas complètement erronée, car ça vous a été présenté avant. Les médicaments anti-amyloïdes notamment semblent avoir la capacité de ralentir au moins un peu la maladie d'Alzheimer. Une fois qu'on a dit ça, et que vous avez bien compris le cadre conceptuel, on peut parler du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc tout commence avec l'amyloïde, je vous l'ai dit, et ça vous a été dit juste avant aussi, l'amyloïde envahit progressivement tout le cerveau. Ça commence très précocement, j'essaie de parler dans le micro. Et voilà. Et une fois que l'amyloïde a envahi le cerveau, en effet, la protéine tau suit la cadence, mais elle se dépose de façon très localisée au départ et va avec le temps envahir l'intégralité du cerveau. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que le processus hiérarchique est un processus d'une pathologie d'abord, c'est-à-dire amyloïde, et d'une pathologie ensuite, c'est-à-dire tau, qui va conduire à la dégénérescence, mais que cette dégénérescence, elle ne se produit pas partout tout de suite. Il y a une hiérarchie spatiale des lésions de la protéine tau. Ça commence ici dans les régions olfactives, on y reviendra, et dans les régions de la mémoire. Et puis ça va diffuser de ces régions vers d'autres structures du cerveau, le pôle temporal juste là, c'est-à-dire le langage, le lobe frontal, c'est-à-dire l'action, et ça finira par envahir l'intégralité du cerveau pour conduire au diagnostic de démence. Et donc, on va évoluer avec cette idée de hiérarchie lésionnelle, de cascade amyloïde. On va évoluer quand on est patient de cette maladie, c'est-à-dire 1 million de malades officiellement. On va évoluer sur un continuum. On va passer de l'état normal où il n'y a rien dans le cerveau, c'est blanc, à l'état présymptomatique où ça commence dans le cerveau, mais ce n'est pas suffisamment perturbé pour que ça se voit, parce qu'au départ, notre organisme compense les altérations qu'il enregistre, et puis ces altérations se mettent à diffuser. On se plaint de sa mémoire parce qu'elle commence à être suffisamment perturbée, et puis on arrête de se plaindre de sa mémoire, on en reparle, mais par contre ça saute aux yeux qu'il y a un problème de mémoire. Ça commence, il est temps d'agir à ce moment-là. Et puis après, on va évoluer de pire en pire, de passer de l'amnésie vers d'autres symptômes qui définiront une aggravation progressive et inexorable des fonctions intellectuelles et donc qui définiront la démence, qui elle-même a plusieurs stades, qui vont du plus léger au plus sévère. Et c'est où qu'on met la barrière, si vous me permettez cette façon un peu directe de m'exprimer, ben on la met ici. Au stade des symptômes légers. On va parler d'Alzheimer précoce et de diagnostic précoce chez les patients qui sont avant ou pendant le stade léger. Quand on est dément, c'est trop tard. C'est la comparaison avec l'incendie qui a été faite tout à l'heure. Donc les stades précoces, le diagnostic précoce, c'est s'intéresser à des patients qui se plaignent de leur mémoire ou qui peut-être ne s'en plaignent plus autant qu'avant, mais qui ont à l'évidence des problèmes de mémoire. Ces patients-là, les diagnostiquer précocement, c'est difficile parce qu'en fait, ils ne se plaignent de rien. Et que la médecine, aujourd'hui encore, et pour longtemps, je pense, est fondée sur les symptômes, c'est-à-dire sur ce que le patient enregistre lui-même comme étant une anomalie de sa normativité, c'est-à-dire de sa capacité à s'adapter. Voilà, et tout ça, ce continuum, on le parcourt lentement, ça dure 15 à 20 ans, ce qui nous offre une fenêtre temporelle qui est significative et importante. C'était vraiment important de poser ce cadre-là pour comprendre de quoi on parle quand on parle de diagnostic précoce. Alors, quels sont les outils du diagnostic précoce ? Eh bien, je viens de vous le dire, l'outil majeur du médecin, c'est ce que lui dit son malade. Et ce que disent les patients quand ils commencent la maladie d'Alzheimer, c'est que leur mémoire, en fait, elle ne va pas bien, car il n'est pas vrai que les patients ne sont pas conscients de leur perte de mémoire. Ça, c'est déjà tard, c'est dans ce qu'on appelle le trouble léger qui est probablement d'ailleurs un terme erroné. Au départ, avant le trouble léger de la mémoire, il y a le trouble subjectif de la mémoire. Je me rends compte que ma mémoire ne va pas bien. Et elle ne va pas bien selon les modalités suivantes. J'oublie des informations sur un délai long. J'ai vu un film il y a 6 mois, je l'ai redécouvert 6 mois plus tard, et c'est au bout d'une heure que je me suis dit, mais je l'ai déjà vu. J'ai lu un bouquin, je suis même allé à la librairie Kléber faire la signature avec l'auteur, c'était formidable, j'en ai parlé avec mes amis, 1 mois plus tard, je ne me souviens de rien. C'est pas bon ça comme symptôme. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers des événements qui sont vécus qui s'effacent. J'ai aussi, c'est un symptôme important, des difficultés d'orientation spatiale. La mémoire, elle est sous-tendue par une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est également le GPS cérébral. Donc quand l'hippocampe ne va pas bien, en général, la spatialité ne va pas bien. Les patients se plaignent de ne plus reconnaître les trajets, de ne pas les visualiser à l'avance. Combien de patients me disent je n'ai plus su comment faire, il a fallu que je révise avant de venir vous voir. Je ne sais plus aller à Haute-Pierre spontanément, ou je ne sais plus aller à la Robertsau, je suis obligé. Il y en a qui me disent que le dimanche, ils ont révisé le chemin pour être à la consultation le mardi. Ce n'est pas du tout des symptômes anodins. Et puis, l'autre symptôme de mémoire qui est très préoccupant, c'est les faits personnels. J'ai voyagé, par exemple, c'est une histoire qui m'a été racontée, un patient voyage au Loch Ness en Écosse, c'était un truc important pour lui, il a été, depuis tout petit, il était intéressé par le Loch Ness, sa légende, etc. Il y voyage, il y fait un beau voyage, et 6 mois plus tard, il ne se souvient de rien. Il a la vague idée qu'il y est allé, mais il ne se souvient de rien. Ce n'est pas du tout bon, ça. Il était motivé pour y aller, il a adoré y aller, et il a tout oublié. Et même avec quelques photos, il lui revient des bribes, mais on voit bien que ça a été effacé. Ça, ce sont des symptômes très sérieux, hein, de plaintes de mémoire qui ne sont pas des symptômes banaux, contrairement aux difficultés pour trouver un prénom ou le nom d'un homme politique. En plus, avec la valse des hommes politiques, je mets au défi tout le monde de retenir parfaitement le nom de tous les cravateux qui viennent parler à la télé tous les jours. Et c'est d'autant plus important que cette plainte, elle peut être très vive, elle peut être donnée avec beaucoup de détails, et que souvent les gens se rassurent en disant « mais finalement, je gère tout mon quotidien ». Certes, mais si on attend la perte d'autonomie pour diagnostiquer un problème, on attend le stade de démence. Donc on attend trop tard. C'est à ce moment-là, quand les patients se plaignent, qu'il faut savoir réagir. Et cette plainte de mémoire, elle est très significative, mais avant de dire qu'elle est égale à la maladie d'Alzheimer, il faut juste vous dire que quand un patient se plaint d'un problème, il est en train de vous dire où son corps dysfonctionne. Et quand quelqu'un se plaint de sa mémoire, il est en train de vous dire que les structures cérébrales qui sous-tendent sa mémoire dysfonctionnent. C'est une lapalissade, et ça va certainement sans dire, mais ça vaut quand même mieux de le dire, parce que, j'ai mis ici la citation de Talleyrand, parce qu'on voit trop de patients qui se plaignent de leur mémoire. On fait un diagnostic de probabilité, problème de mémoire égale Alzheimer, alors qu'en fait, problème de mémoire égale problème de structure de la mémoire. Et avant de parler d'Alzheimer et de dire que les carottes sont cuites, en tout cas, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, il est peut-être temps d'ouvrir une fenêtre d'opportunité, de laisser une chance à nos patients. S'il y a des problèmes de mémoire, il y a quelque chose qui perturbe les structures de la mémoire. Et c'est vrai que c'est peut-être bien l'Alzheimer, mais c'est peut-être bien autre chose. Et autre chose, ce n'est pas un truc mineur. Autre chose, c'est plein de choses, et c'est des choses qui sont souvent améliorables et qu'il faut donc savoir dépister. Donc quand quelqu'un se plaint de sa mémoire, il faut le prendre au sérieux parce que c'est potentiellement un Alzheimer, mais il faut le prendre au sérieux parce qu'on peut ouvrir une opportunité, une fenêtre d'opportunité de l'améliorer, parfois même de le guérir. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer et guérir ? Certaines perturbations sanguines, il y a des gens qui se plaignent de leur mémoire, c'est juste un problème de composition, de taux de calcium ou de thyroïde. Il faut le savoir, il faut le dépister, il faut le soigner. D'autres choses encore, certaines infections. On est en Alsace, la maladie de Lyme est un problème chronique et endémique en Alsace. Certaines pathologies de la mémoire sont liées à des infections et justifient des sérologies, et notamment la sérologie de Lyme. D'autres sérologies aussi, mais on n'est pas là pour faire un cours de médecine académique, mais le Lyme, vraiment, dans toutes les zones d'endémie, et elles sont de plus en plus larges, ces zones, parce que le réchauffement climatique interfère. Certains phénomènes épileptiques peuvent également se manifester par des problèmes de mémoire, et les patients oublient de parler de leur malaise. Donc parfois, quand on a des problèmes de mémoire et qu'on vit certains malaises, il est utile d'en parler. On ne sera pas compris tout de suite forcément, mais ça vaut le coup d'insister, car il peut y avoir des liens entre les malaises que l'on fait et la mémoire qui flanche. Et c'est dépistable par un EEG. Le syndrome d'apnée du sommeil, 10 millions potentiels de malades en France, peut être responsable d'un problème de mémoire qui ressemble parfois très fort à la maladie d'Alzheimer et qui s'améliore avec l'appareillage. Donc il faut savoir parler de son mauvais sommeil, de ses ronflements, car ça peut être l'objet d'un dépistage qui peut se faire dans plein de cabinets différents. Cardio-pneumo, neurologue contribuent au dépistage de cette pathologie fréquente. Et puis j'arrête là le catalogue avec les tumeurs cérébrales, évidemment. Certains patients se plaignent de leur mémoire parce qu'il y a une tumeur qui est en train de pousser et souvent ça s'accompagne de maux de tête. Ça se dépiste rapidement et parfois ça se soigne très facilement avec l'aide du neurochirurgien.
Docteur Croton, sur 10 personnes qui viennent vous consulter, combien ne seront pas diagnostiquées Alzheimer malgré des plaintes de mémoire initiales?
Oui, probablement 60% d'entre eux.
C'est vraiment un message à passer. Il faut aller consulter parce que ce n'est pas toujours Alzheimer. Ça peut être autre chose.
On s'inquiète pour
quelque chose qui n'est pas justifié.
Ouais, probablement 60% d'entre eux n'auront pas un diagnostic formel d'Alzheimer. Mais sur ces 60%, il y en aura quand même 50% qui auront un diagnostic de maladie apparentée. Les causes curables, c'est 10%.
Mais merci.
Une chance sur 10, vous avez moins de chances que ça de gagner au loto. Donc, vous pouvez vous dire que peut-être le docteur ne va pas vous annoncer une trop mauvaise nouvelle. Parfois, c'est un point douloureux. Les problèmes de mémoire dont les patients se plaignent, c'est la faute du docteur. Mais je mets entre guillemets la faute parce que chaque praticien fait ce qu'il peut et essaye d'améliorer l'état de ses patients. Mais sachez que parmi les médicaments pour la vessie, certains médicaments anti-tremblement, les anti-parkinsoniens, certains médicaments asséchants parfois utilisés pour des problèmes de rhinite chronique, eh bien tous ces médicaments perturbent considérablement la capacité à mémoriser. Pareil pour certains médicaments calmants, comme certains antalgiques également, certains sédatifs pour dormir, le Donormil et le Liden, depuis que les benzodiazépines font l'objet d'un contrôle, refont un retour de carrière extraordinaire dans les pharmacies. Mais ces trucs-là, c'est des antihistaminiques qui perturbent la mémoire. Et des fois, on n'a pas fait le lien entre ce qu'on prend pour dormir, parfois même à cause d'un syndrome d'apnée, et ce qui perturbe notre mémoire. Les sédatifs de type benzodiazépine, vous connaissez le Lexomil, Serestat, Emesta, etc. Ça, c'est pas bon pour la mémoire du tout. À forte dose, ça a même un effet amnésiant qui est proche de ce qu'on peut vivre quand on a pris une bonne cuite. Donc, c'est pas bon pour la mémoire. Hein. Et puis, certains antidépresseurs, enfin, et certains antiépileptiques peuvent être responsables des troubles que les patients ressentent. Donc, de temps en temps, on se plaint de sa mémoire parce que les structures de mémoire ne marchent pas à cause des médicaments qui ont été prescrits. Si vous ne le savez pas, eh bien, sachez qu'il y a très régulièrement des magazines qui font leur une sur ce genre de médicaments. Parfois, c'est des unes un peu polémiques, mais ça vaut le coup parce que ça informe clairement les gens de ce qu'ils peuvent prendre et ne pas prendre. Et puis, on ne peut pas ne pas en parler, l'alcool et la mémoire, c'est un thème important. Je parlais des amnésies post-cuites qu'on peut vivre de temps en temps. La prise chronique d'alcool, selon des quantités qui restent à déterminer exactement, mais probablement au-delà de 2 verres par jour, peut être responsable de déclin cognitif significatif. Les Américains, qui ont un regard beaucoup plus sévère sur l'alcool que nous, estiment qu'une personne sur 10 en consultation mémoire se plaint de sa mémoire parce que sa consommation est problématique. Alors que c'est souvent un thème qui n'est jamais abordé dans les consultations françaises.
Les pouvoirs publics disent 1 verre par jour maximum, mais pas tous les jours.
Ouais, ben ça c'est sans doute bien. Le problème, c'est que j'avais lu un bouquin d'Addicto quand j'étais plus jeune, d'un certain Archambault, c'était un Lyonnais. Le problème, c'est qu'avec certaines personnes, un verre en appellera une infinité d'autres, et vous ne savez pas en fait comment on peut s'arrêter.
Et pas tous les jours.
Et pas tous les jours.
C'est la définition.
Donc, je suis sûr que j'aurai des questions sur la question de l'alcool préventif, et on parlera de ce qu'on appelle le biais de survie.
Préparez vos questions d'ailleurs, vous allez bientôt pouvoir les poser. Voilà. Hein. Il est prêt à y répondre, le docteur Croton.
Aiguisez vos arguments, aiguisez vos fléchettes, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc voilà pour la question de l'alcool. Donc des fois, hein, le problème de mémoire, il est dans le mode de vie. Alors évidemment, qu'est-ce que va faire un patient qui boit trop et qui le sait? Il va demander à ce qu'on le rafistole pour continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais on n'est pas là pour rafistoler des gens qui, par ailleurs, prennent beaucoup de risques. Bon, Une fois qu'on a dit tout ça, il faut revenir au début. Je me plains de ma mémoire et j'ai peut-être bien l'Alzheimer parce que mon docteur et moi, on a fait l'analyse, on a fait tout ce qu'il fallait complètement, la prise de sang, les machins. On n'a rien trouvé d'autre, donc c'est peut-être l'Alzheimer. Alors, ce qui va d'autant plus orienter sur c'est peut-être l'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle les signes d'alerte. Je vous l'ai montré tout à l'heure, quand les structures de la mémoire commencent à être prises par la pathologie alzheimerienne, il y a souvent les bulbes olfactifs qui sont pris aussi, c'est-à-dire qu'en parallèle de la perte de mémoire, se produit une perte de l'odorat. L'association mémoire-odeur est bien connue et elle fait l'objet d'une remarquable dissertation dans un livre qui s'appelle « Proust était un neuroscientifique », où justement un auteur américain reprend la magnifique intuition de Proust. Donc si quelqu'un perd la mémoire, et il perd l'odorat, c'est un signe d'alerte. Sauf si, bien sûr, il a une polypose allergique chronique et que c'est peut-être simplement son problème ORL. C'est pas du tout normal de perdre la mémoire et de changer de caractère. Et devenir égocentrique alors qu'on l'a jamais été. Devenir ch'tif, comme on dit ici en alsacien, alors qu'on l'a jamais été. Méfiant, irritable, tyrannique, c'est pas bon. Je me souviens d'une dame qui avait été... c'était une maîtresse femme qui avait été... intendante dans une grande maison parisienne. Elle gérait donc le fonctionnement d'une grande maison bourgeoise. Elle n'avait jamais été comme ça quand elle était chez elle. Et quand l'Alzheimer s'est annoncé, elle a perdu la mémoire et elle a retrouvé tous ses réflexes de dame matrone avec lesquels elle gérait la maison parisienne. Donc c'était dîner à 17h30, fermeture des volets à 18h, extinction du chauffage à 19h et au lit à 20h. Et le mari n'était pas d'accord. Donc ça, c'est des comportements tyranniques et psychorigides qui ne sont pas du tout bons signes. Avec le caractère, change souvent le comportement, se replier sur soi, refuser les invitations, délaisser ses hobbies, ses proches, etc. Ça aussi, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'avec la pathologie de la mémoire, avec la pathologie hippocampique, commence à y avoir une extension de la maladie alzheimerienne à d'autres régions. Et puis parfois, c'est un petit signe qui nous met encore plus la puce à l'oreille. Les patients vont pas trop mal, la mémoire est faiblement altérée, l'odorat est un peu altéré, mais on apprend qu'il y a 6 mois, la chirurgie du genou, ça s'est super mal passé. Le réveil de l'anesthésie a été catastrophique, confusion pendant 48 heures, neuroleptisation, contention au lit, bref, le cerveau est fragile, et cette perte de mémoire, elle vient continuer à écrire ce récit que quelque chose est en train de saper la physiologie cérébrale. Alors les gens viennent souvent en me disant « j'ai fait une IRM, elle est normale pour l'âge, le radiologue ne m'a pas inquiété ». D'ailleurs, le radiologue n'a pas parlé avec son patient dans la plupart des cas, et donc il ne sait pas en qui réellement de ce qui se passait. Et en fait, regardez, un sujet normal avec une IRM cérébrale, ça donne ça, et quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer avérée, c'est ça son IRM. Si vous passez trop rapidement sur les structures de la mémoire, vous ne voyez pas en fait qu'elle commence à s'aplatir un peu. Et en plus, si vous êtes radiologue et que vous voyez plein d'IRM de septuagénaires, ben vous avez l'habitude de voir plein d'IRM comme ça, puisqu'il y a 1 million de malades en France. Donc vous considérez que c'est normal pour l'âge. Ben en fait, ça ne l'est pas. Et c'est une maladie d'Alzheimer qui a commencé. Et il n'y a pas grand-chose à voir sur l'imagerie. Et donc les performances décevantes de l'imagerie concourent souvent à un malentendu. Finalement, peut-être que mes problèmes, c'est pas grand-chose, je fonctionne bien, beaucoup de gens autour de moi se plaignent de leur mémoire, et pour cause, il y a 1 million de malades potentiels, et en plus, mon IRM n'est pas très pathologique. Et donc, il faut se méfier de ça, il faut vraiment rester sur un fil conducteur qui est celui de la plainte, et sur les signes d'alerte dont je vous ai parlé. Et quand vous avez une plainte avec ou sans signe d'alerte, même si votre IRM n'apparaît pas très pathologique, vous devez faire tester votre mémoire. Le maillage de territoire, il a été abordé tout à l'heure. Il y a une façon simple de savoir où est la consultation mémoire la plus proche de chez soi. On va sur le site de la Fédération des centres mémoire. On clique sur la carte centre mémoire ici et on voit apparaître une carte avec la distribution de tous les centres mémoire et centres de ressources qui sont ici sur le maillage du territoire. Et puis plus vous zoomez, plus vous avez de détails sur la région qui vous intéresse. Donc quand on se plaint de sa mémoire, et d'autant plus qu'il y a des signes d'alerte comme la perte de l'odorat, et même si l'imagerie est normale, on consulte. À l'issue de la consultation, il y aura 2 grands cas de figure. Soit le test est normal et c'est bien, mais s'il y a des signes d'alerte, il faut continuer à surveiller, parce que parfois même si la personne se plaint, la sensibilité de nos tests, leur capacité à détecter n'étant pas parfaite, ils peuvent être sous les radars de la détection, donc il faut continuer à surveiller. Soit la plainte de mémoire s'accompagne en effet d'un test anormal qui montre un dysfonctionnement des structures de la mémoire, c'est-à-dire des hippocampes, et dans ce cas-là, le risque de maladie d'Alzheimer devient considérable. Vous vous plaignez de votre mémoire, il y a en effet un problème de mémoire qui est lié à un dysfonctionnement avéré des structures de la mémoire, c'est-à-dire des hippocampes, et là, clairement, le risque d'Alzheimer est majeur. S'il y a un fort risque de maladie d'Alzheimer, il faut agir en conséquence. Pourquoi ? Et on va en reparler dans un instant, il faut faire un diagnostic précoce, car il est grand temps de mettre de l'ordre dans les médicaments qu'on prend, on en a parlé, dans son mode de vie, on en reparle dans un instant. Il faut stimuler sa vie culturelle et intellectuelle, ça vous a été dit, mais il faut le réaffirmer, le visser. C'est quand on a un problème de mémoire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer 8 heures par jour devant CNews ou BFM TV. Alors Pascal Praud, il est vivant, il est polémique, etc. On a l'impression d'être intelligent, mais il ne se passe rien de positif pour la cognition. Et en plus, on cultive des affects qui sont négatifs. Donc il faut aller faire autre chose que de manger des chips devant Pascal Praud et les émissions de CNews. Et puis, il faut faire travailler sa mémoire, des jeux, du suivi orthophonique, c'est important. Se faire surveiller régulièrement. Et c'est vrai que quand il y a un fort risque de maladie d'Alzheimer, on peut être amené à pousser les examens pour être sûr que c'est avec certitude une maladie d'Alzheimer, ce qui est le cas dans 40% des cas, avec la fameuse ponction lombaire. Ce sera d'autant plus important d'avérer la maladie d'Alzheimer que les médicaments seront disponibles. C'est une question de temps, mais pour l'instant, il n'y a pas encore tout le monde chez qui on fait une ponction lombaire. Un octogénaire qui a des problèmes de mémoire, on le suit, on le conseille, mais parfois, on ne va pas forcément lui faire une ponction lombaire. Donc vous voyez, en partant du premier symptôme le plus évident, mais qu'il fallait absolument rappeler, la plainte de mémoire, il va se dérouler quelque chose d'une analyse clinique qui va nous conduire à un diagnostic le plus précoce possible. Parmi les diagnostics précoces, je vous ai parlé du stade de la plainte, mais il y a aussi le stade du trouble léger. Léger, c'est un terme un peu trompeur. C'est léger parce que ce que l'on observe dans la consultation est évidemment mineur au regard de ce qu'est une démence terminale. Mais quand on dit diagnostic léger, il y a certains proches qui nous disent « vous êtes gonflé et punaise ». Les problèmes de mémoire de mon mari sont majeurs tout le temps. Donc on devrait sans doute dire autre chose que léger, peut-être trouble cognitif modéré. Mais souvent, donc, quand la plainte de mémoire passe, parce qu'on ne peut pas se souvenir qu'on oublie, eh bien, on rentre dans ce stade où on commence à minimiser son trouble alors que les proches s'inquiètent de plus en plus. Quand on en est là, c'est la même démarche qu'avant. Il faut agir en ayant conscience que l'horloge tourne. Il reste 1 ou 2 ans avant que la perte d'autonomie arrive, donc il est grand temps de se mettre en route pour améliorer les choses. Comment on améliore les choses? Et j'en aurai bientôt terminé. Eh bien, en mettant de l'ordre dans son hygiène de vie, on en a parlé. Ça, c'est la frise temporelle de notre existence. Et tout au long de notre existence, il va y avoir des choses qui vont mailler notre risque de faire un trouble de la mémoire et des choses qui vont mailler notre protection vis-à-vis de ces troubles de la mémoire. Tout ce qui nous expose à une aggravation des problèmes de mémoire tout au long de la vie, ce sont les choses que vous voyez apparaître ici en rouge. Alors j'ai mis en pointillé, bien sûr, les choses sur lesquelles on ne peut plus grand-chose une fois qu'on se plaint de sa mémoire. Ce sont les facteurs génétiques, les facteurs constitutionnels ou les facteurs socio-économiques. Mais dès la période d'adulte jeune, 40 ans, 50, 60 ans, de vie middle age, comme on dit, il faut savoir que tout ce qui est hypertension artérielle, cholestérol, diabète, surbouffe, malbouffe, sédentarité, tout ça, ça compte et ça vient perturber le cerveau, accumuler les lésions qui contribueront à l'aggravation des problèmes de mémoire. Et en parallèle de ça, en miroir de ça, eh ben dans la vie, il y a tout ce qu'on fait pour se protéger finalement de ces facteurs toxiques. Alors ça, on n'y peut pas grand-chose toujours, même si les aristocrates ont bien compris qu'il ne fallait pas mettre les enfants dans l'école publique, hein, bien sûr, dans les zones de priorité éducative. Mais par contre, tout ce qui est là, le mode de vie, l'activité physique, l'enrichissement social et culturel, prendre en charge son hypertension, son cholestérol, son diabète, boire avec modération, prendre du Viagra, je le fais exprès, vous me poserez la question si vous voudrez, eh bien, tout ça, ça protège d'un déclin cognitif supplémentaire et ça passe beaucoup par une protection vasculaire. Donc, quand on découvre qu'il y a un problème de mémoire, vous voyez qu'il n'y a pas rien à faire. Il y a une enquête médicale, il y a une enquête médicamenteuse et il y a clairement de l'ordre à mettre dans son mode de vie. Et pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que il est faux qu'on ne peut rien faire, je vous l'ai dit, et parce que aujourd'hui, même si on est en train de passer du côté du cure, c'est-à-dire du côté de la modification de la maladie, et peut-être un jour, qui sait, de la guérison, pour l'instant, on est encore dans une approche de care, comme disent les Anglais. On prend soin de son corps, on prend soin de son intellect, on prend soin de soi au sens large, et dans cette optique de soin, faire un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, c'est avertir les patients et leurs aidants qu'on va rentrer dans un parcours qui va être un parcours difficile, un parcours de risque et de souffrance qu'il faut accompagner. Quand on est étudiant, on nous bassine avec la perte d'autonomie et on nous dit c'est grave la perte d'autonomie, oh là là, c'est grave la perte d'autonomie. Mais Madame Bagnier, elle peut vous en parler du danger financier du déclin cognitif. Elle s'est fait piquer 1 milliard d'euros par monsieur. Madame Bettencourt, pardon, par Monsieur Bagnier. Donc ces mises en danger financières par l'abus de faiblesse, les mises en danger sociales par l'exclusion et la stigmatisation, ça compte énormément. Vous êtes atteint d'un Alzheimer, vous allez au club de bridge tous les vendredis soirs et vous demandez à votre partenaire depuis 3 mois comment va son mari. Son mari est mort d'un cancer multimétastatique dans d'atroces souffrances. Votre partenaire de bridge va finir par en prendre ombrage et va commencer à vous faire comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu au club de bridge. Et petit à petit, votre exclusion augmente parce que votre difficulté cognitive commence à avoir de l'impact et vous n'êtes pas accompagné pour ça. Je ne vous parle même pas des mises en danger physiques. Chaque année, pendant les fêtes, notamment à Noël, on a les faits divers avec une personne âgée qui a pris l'autoroute à l'envers et qui est venue faucher, etc. Et puis bien sûr, les troubles du comportement qui sont quasi obligatoires. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'une plainte de mémoire est d'autant plus problématique et préoccupante qu'il y a des changements du caractère et des changements du comportement. Et bien, les troubles du comportement, ça va être très présent aussi dans l'histoire des patients. Il va falloir l'accompagner et pas seulement avec des médicaments mais avec une adaptation de tout l'entourage aux patients. Donc faire un diagnostic précoce, c'est pouvoir agir tant qu'on le peut, c'est être dans une démarche de care, c'est-à-dire d'accompagnement, et bien sûr c'est une anticipation de la perte d'autonomie mais qui est très tardive finalement au regard de la plainte cognitive qui peut commencer 10 à 15 ans avec la perte d'autonomie. Le diagnostic précoce sera d'autant plus important, vous l'avez compris dans mon topo, qu'on aura ces médicaments anti-amyloïdes qui arriveront. Pour l'instant, ils ne sont pas validés en France et en Europe, mais ça peut changer en fonction des autres données qu'on aura. Et puis, pourquoi il faut faire un diagnostic précoce, et c'est ma dernière diapositive.
Il a compris que je me levais parce qu'il sait qu'il a été très bavard.
J'ai été très bavard. Eh bien, il faut continuer à être du côté du diagnostic précoce parce que la tâche ne fait que commencer. Nous avons 1 million de malades aujourd'hui en 2024. C'est moins que ce qui était planifié en 2017. Mais la tâche qui nous attend est encore considérable pour 2040. Et donc, nous devons continuer à nous alerter précocement pour nos malades, pour les accompagner, pour accompagner leurs aidants. Et je terminerai avec Sisyphe, nous n'avons pas fini de pousser notre caillou, mais c'est le chemin qui compte, n'est-ce pas ?
Merci beaucoup, docteur Cretin. Passionnant, super concret, un peu bavard, je dois dire, mais j'ai pas eu le cœur de vous arrêter parce que vous êtes tellement concret et on comprend tellement bien pourquoi il faut se mobiliser, les vrais signes d'alerte, vraiment super. Je vais peut-être en profiter quand même, vous n'allez pas partir bien loin parce que je vais bientôt avoir besoin de vous, pour vous signaler un livre pour les personnes qui ont été interpellées par tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour repousser les risques de la maladie. Il y a un livre qui vient de sortir, qui est signé du docteur Olivier de la Doucette et du professeur Bruno Dubois. C'est une œuvre collaborative qui a été pilotée par les deux cofondateurs de la Fondation Recherche Alzheimer. Ça s'appelle « Alzheimer n'est pas une fatalité, agir au plus tôt pour un cerveau en bonne santé. On se dit, oh là là, encore des miracles et tout. En fait, je l'ai lu, il est passionnant ce livre. Il est bourré d'exemples extrêmement concrets et extrêmement appropriables. Il est très facile à mettre en œuvre et compréhensible même sans aucune connaissance scientifique spécifique. Vraiment, je vous le recommande si vous avez envie, comme moi, d'essayer de prendre des bonnes options pour retarder au maximum le risque d'Alzheimer.